Je me rappelais quelques citations que je trouvais sur Internet. Une maman, c'est une montagne de compréhension. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez eu de la compréhension, et j'en avais encore. Une maman, c'est celle qui gronde, mais qui pardonne tout. Et puis j'aime bien la dernière, une maman qui nous borde au lit, laisse un parfum de sommeil. Voilà, hein. Voilà, pour apaiser, hein, l'enfant. On sait qu'à un moment donné, une certaine période de l'enfance, on a peur du noir, on a peur, etc. Et puis la maman est là. Alors, il y a un beau poème. Alors, c'est un poème en acrostiche. Ça veut dire que chaque verset de ce poème va commencer par une lettre de l'alphabet hébreu. Et comme il y en a 22, ça fait 22 versets. Et ce poème, on le trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, et on va lire à partir du verset 10. Alors, souvent, on a considéré que ce poème, bien sûr, était simplement pour mettre en valeur la femme, bien sûr, mais il y a aussi, et on le verra tout à l'heure, eh bien, comme une triple valeur, hein, et on va le découvrir ensemble. Vous savez qu'en France, nos économistes étaient un petit peu tendus pendant cette semaine parce que il y a des organismes mondiaux qui mettent des valeurs économiques au pays. Alors il y a des triple A, voilà, hein, il y a des double A, il y a des A, puis après c'est comme à l'école, il y a des B, il y a des C, etc. Et la France avait peur, hein, de perdre son double A. Bon, on n'est pas au triple A, hein, mais c'était un... Et finalement, elle a conservé pour l'instant son double A, donc ce qui a rassuré quelques économistes. Ici, je dirais que la valeur de cette femme, c'est la valeur d'une femme, c'est la valeur d'une épouse, c'est la valeur d'une mère, ça vaut un triple V, un triple valeur. Et on va considérer ces choses ce matin, ensemble. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine, du lin, et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa famille, ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'achète avec le fruit de son travail. Elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, elle les vend, elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieures. La grâce est trompeuse, la beauté est illusoire, c'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Amen. Alors quand on retrouve l'origine de ce poème, eh bien si on lit un petit peu avant, au chapitre 31, on s'aperçoit que ce sont les paroles du roi Lémuel, un message par lequel sa mère l'a instruit. On verra tout à l'heure, hein, cette transmission de cette maman qui a inspiré finalement son fils, roi accessoirement, mais en tout cas son fils, pour écrire ce beau poème. Hein, je sais que c'est la période souvent où les mamans reçoivent un poème de la part des enfants, ça a été à l'école ou etc. Et puis avec et ce sont de bons moments, hein, de moments sincères, de moments véritables là aussi qui marquent eh bien cette belle réalité. Alors ce matin on va parler de la valeur d'une mère. Et je rappelle pour moi eh bien il y a une triple valeur ici, puisque c'est d'abord la valeur en tant que femme, c'est la valeur en tant qu'épouse. Et puis c'est la valeur bien sûr en tant que maman. Une valeur en tant que femme d'abord. Ce poème commence ainsi. qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que des perles. Je ne sais pas comment vous réagissez à ce premier verset, etc. Si ça vous interpelle, mais je me dis quand même, comment on peut comparer la valeur d'une femme à une valeur marchande des perles? Je dis quand même, heureusement que ce fils Lemuel dit que on peut pas comparer la valeur d'une femme, même au diamant, au collier de perles le plus inestimable. On peut pas comparer. On est dans des dimensions, dans des valeurs complètement, j'allais dire, incomparables. Et on se demande, comment ce fils peut-il ainsi nous interpeller? Pourquoi une telle comparaison? Bien, rappelons-nous quand même que à cette époque, et ça existe encore dans certaines cultures, lorsque on parle de mariage, eh bien on sait très bien que la famille du fiancé, le fiancé, vont offrir une dot de mariage, donc à la future épouse, mais aussi bien sûr à la future famille. Dans certaines cultures, ça s'appelle même le prix de la fiancée. Alors, je vous rassure tout de suite, cette pratique n'a pas pour but d'acheter une épouse à une certaine valeur marchande, mais plutôt de sceller un contrat, de sceller une alliance entre les deux familles. C'est ça le sens ici. Elle prouve aussi, bien sûr, la capacité financière du futur mari de pouvoir gérer, d'assumer, bien sûr, les besoins de sa famille. On retrouve cela dans la Bible. Vous vous souvenez de lorsque ce serviteur d'Abraham va partir et il va rencontrer une certaine Rebecca. Eh bien, il est dit que le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca, voilà. Mais aussi, il fit des riches présents à son frère et à sa mère. Et ainsi, eh bien, Lemuel ici parle de quelque chose qu'il connaît. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter une fiancée, mais de sceller réellement une alliance. Et ce proverbe confirme que rien ici-bas, ni l'argent, ni les perles, ni aucune autre valeur ne peut être comparée à la valeur d'une femme. On peut pas en comparer. C'est incomparable. C'est une valeur, mesdames, vous avez une valeur incomparable. On peut pas mesurer. On se souvient de Luc 1, 46, c'est Marie, lorsqu'elle réalise qu'elle va mettre au monde le Sauveur, elle va dire ceci: « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humiliation de ta servante. » Et littéralement, le mot « servante », c'est « esclave ». Esclave. Quel est le prix d'une esclave? Quel est le prix d'un esclave? Même si dans le contexte hébraïque, les esclaves étaient quand même beaucoup mieux traités, ils pouvaient être libérés, etc. Mais quel est le prix d'un esclave? Rien. Et pourtant, Marie, lorsqu'elle va ainsi devenir enceinte, dira: Seigneur, tu as jeté, ton regard sur l'humiliation, sur la bassesse de ton esclave. Quelle prise de conscience, quelle reconnaissance là aussi, où Marie, à ce moment-là, va considérer que elle avait une valeur qui était inestimable, qui était incomparable avec toutes les richesses de la terre, puisque Dieu lui-même l'avait choisie pour devenir la maman de Jésus. Deuxième pensée, qu'est-ce qui fait la valeur d'une femme ici? C'est la valeur dans son attitude. Valeur dans l'attitude. Le proverbe 31-25, une belle image, il dit ceci: « La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. » La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. La force. On peut penser ce matin que la force est l'apanage des hommes. Voilà, ils sont forts, ils peuvent soulever des armoires assez lourdes, déménager, etc., etc. Mais on peut quand même, nous qui sommes pères aussi, et puis qui avons accompagné, aidé nos épouses, eh bien, se rappeler aussi bien que elles ont aussi une force. Alors, non seulement peut-être physique, mais en tout cas une résistance morale, psychologique, psychique, une travailleuse ici, une courage de la résistance. Il faut faire face aux besoins du foyer. Quand on travaille, il faut appréhender le travail, etc. Et on sait très bien que les femmes sont très très aussi résistantes, fortes psychologiquement, moralement. Il faut anticiper. Quand on lit ce proverbe 31, elle pense à un champ, elle l'achète. avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Il faut gérer ça. Avec la force en guise de ceinture, elle a fermé ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Elle file elle-même de la laine, elle tisse elle-même les habits. Le verset 22 nous dit ceci, elle se fait des couvertures, elle a des habits en fin lin, en pourpre. Et puis le verset 24, elle fait des chemises, elle les vend, elle livre des ceintures aux marchands. On voit que effectivement cette femme ici, bien, elle est revêtue de force. Elle est revêtue de force. Ça m'a fait penser à un autre verset, c'est dans Éphésiens 6:14, où il est dit ceci, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Soyez saints de vérité. Et on pourrait dire que ce matin, pour les dames, mais pour aussi les messieurs, la vérité, c'est une force qui nous permet d'assumer nos journées, qui nous permet bien de pouvoir regarder aussi notre monde en face, sans aucune honte, sans aucune gêne, sans aucune humiliation. La force, hein, la vérité pour ceinture. Et puis, il est question aussi un habit d'honneur, l'honneur, la force et l'honneur comme habit. Et on connaît tous ce matin les ravages que peut produire le déshonneur dans une vie. Mais ici, cette femme est revêtue d'honneur. Et j'ai pensé à ce texte de 1 Pierre, vous le connaissez également. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors là aussi, il faut bien remettre les choses dans leur contexte et dégager le principe. Il n'est pas question aujourd'hui, bien entendu, d'interdire les tresses, d'interdire bien de beaux vêtements. Pas du tout, c'est pas le principe. À l'époque, certaines se servaient bien sûr de leurs tresses, de leurs beaux vêtements pour se montrer et faire sentir qu'elles étaient supérieures aux autres. Voilà. Mais ici, le principe, c'est de se rappeler que la priorité, c'est cette beauté intérieure. C'est la beauté de l'âme. C'est celle que Dieu recherche. Et c'est celle, mesdames, qui vous honore ce matin. Habillée d'honneur et de force. Voilà ce qui fait de la valeur pour une femme, en tout cas dans cette description, et ce matin, bien, pour chacune d'entre vous. Le verset 20 nous dit ceci, « Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. » Il y a dans son cœur, dans son âme, une réelle disposition pour se tourner vers l'autre, vers son prochain. Elle est couronnée, elle est habillée de force et d'honneur. Troisième volet, par ses paroles. Proverbe 31:26 nous dit ceci, « Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. » Il y a deux versets que j'ai mis aussi. Vous qui êtes de bonnes ménagères également, qui savez bien faire la cuisine, eh bien, Colossiens 4:6 est pour vous, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. On imagine, on inverse juste deux termes, si tu peux revenir. Que votre parole soit toujours accompagné de sel et assaisonné par don de grâce. Ça voudrait dire que on met un bon paquet de sel là dans la viande et puis juste un tout petit peu de grâce. C'est le contraire. Vous savez les dégâts que le sel peut faire quand c'est trop dosé, c'est immangeable. Alors Dieu nous dit écoutez dans vos paroles mettez-y une bonne dose de grâce. Un petit peu de sel, oui, pour faire réfléchir, pour aider, mais ne faites pas le contraire. Ne faites pas le contraire. Et puis, j'aime bien la valeur aussi du proverbe 25:11 qui nous dit ceci comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole. C'est extraordinaire quand même. La valeur déjà ici. Une question de pommes d'or, question de ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Et la valeur d'une femme, là aussi, bien, se manifeste par la valeur de ses paroles. Par ses paroles qui vont être des paroles de bénédiction, comme il est dit dans ce texte, d'encouragement, un enseignement plein de bonté et sur sa langue. Et ce matin, c'est une première valeur. Vous avez cette valeur en tant que femme. Ensuite, eh bien, il y a une valeur en tant qu'épouse. En tant qu'épouse. Le proverbe 31, verset 11 nous dit ceci. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Et puis le verset 23 nous dit ceci, « Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Ici, en tant qu'épouse, eh bien, il y a une valeur ajoutée à ce que cette épouse vit en tant que femme, c'est la valeur par la confiance. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est quand même la liberté d'action que cette épouse a dans son foyer. Même si à l'époque, les femmes israélites jouissaient d'un meilleur statut que les autres cultures environnantes, le modèle culturel reste bien différent de notre modèle à nous, et sans aucun jugement de valeur. C'était l'époque qui était ainsi, où les épouses étaient surtout destinées, bien sûr, à s'occuper des tâches ménagères, des enfants, etc. Mais ici, on voit une grande liberté pour cette femme dans ce texte, dans ce proverbe, dans ce poème. Et ici, finalement, ce qui fait la base de cette valeur et ce qui doit faire aussi la base de cette valeur aujourd'hui, le principe demeure le même, c'est la valeur attribuée par la confiance. Alors, confiance réciproque, tout ce que je dis, bien sûr, pour l'épouse est valable aussi pour l'époux. Mais ici, les questions, justement, de cette confiance. Chacun inspire confiance à l'autre. Et chacun a confiance dans l'autre. Quels que soient les moments, etc. C'est ce qui est un des scellements essentiels du couple. On sait très bien que la jalousie, la défiance, la méfiance est destructive dans un couple. C'est terrible. Quand on ne se fait pas confiance, quand on regarde, on épile le téléphone, etc. Les comptes, on vérifie. Je veux dire, c'est terrible. C'est terrible. Mais si, il y a une confiance réciproque, une confiance mutuelle, ce qui ajoute une valeur extraordinaire à cette épouse qui ainsi inspire cette confiance. Le rapport de confiance, il est essentiel dans notre société. Essentiel dans la famille, il est essentiel dans le travail, il est essentiel dans nos relations, il est essentiel dans l'église, il serait essentiel en politique, en sport, dans la santé, dans les finances. Enfin, on prend tous les domaines. Et s'il n'y a pas une relation de confiance, sur quelle base on va pouvoir, là aussi, avoir des relations avec les autres, etc. Confiance, c'est se fier entièrement à quelqu'un. Et pour se fier à entièrement quelqu'un, il faut le connaître, bien sûr. Et puis pour connaître, il faut aimer. On sait comment ça se passe. C'est se sentir en sécurité. C'est se sentir, bien sûr, en sécurité. Qu'est-ce qui peut détruire la confiance? La peur, la critique peut entraîner la méfiance, peut entraîner la défiance. Mais ce matin, ce qui fait la valeur de cette épouse maintenant, c'est cette confiance, bien sûr, qui est fondée donc sur l'amour. La source de la confiance, je pense que Proverbe 30-30 peut nous donner au moins un aspect. La grâce est trompeuse, la beauté est illusoire, c'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. La femme qui craint l'Éternel, c'est la femme qui a en horreur le mal. C'est la femme qui va chercher toujours le bien, s'attacher à faire le bien, chercher le mieux pour sa famille, pour son prochain, pour elle-même. Et ainsi, dans ce cadre-là, cette femme qui craint l'Éternel pourra manifester cette confiance, inspirer confiance, puisqu'elle ne cherche que le bien de l'autre. Et ainsi, cette confiance va pouvoir être un solide fondement pour le foyer. Alors, je fais quand même ici juste une remarque, je pense essentielle. Certaines Bibles, je ne sais pas, peut-être la vôtre, ont mis en titre de ce poème « Une femme parfaite ». Je sais pas si vous l'avez. « Une femme parfaite ». Alors, un jour, une sœur nous a dit avec Corinne, on parlait de mariage, et puis elle dit « Moi, je prie pour trouver un homme parfait ». Alors, j'avais envie de lui dire « Tu peux attendre longtemps, c'est même pas la peine ». Mais je lui ai pas dit ça comme ça. Je lui ai dit ceci. Et si un homme, en ce moment, priait pour trouver une femme parfaite, est-ce que tu serais cette femme? Donc là, ça a aidé quand même à réfléchir un petit peu, j'espère. Bon, le mythe, le concept de la femme, de l'épouse, de la mère parfaite, c'est un mythe. C'est un mythe, comme celui du père, comme celui de la maman, comme celui de vous. Parce que, pourquoi je vous dis ça, mesdames? Parce que, en lisant ce poème, vous pourriez dire, oulala, mais j'en suis pas là. Je ne suis pas cette femme de valeur, je ne suis pas cette épouse de valeur, je ne suis pas cette mère de valeur, etc. Parce que, d'après cette description, effectivement, il semble que cette femme, elle soit parfaite. Nous sommes parfaits en Jésus-Christ, c'est un fait, nous le savons, mais pendant tout notre pèlerinage ici-bas, nous le savons, eh bien, on est en formation, on est en transformation, on est en métamorphose à l'image de Jésus. Et j'aime bien la remarque de Jésus, c'est dans Marc 14, 6. C'est un moment où Marie va briser un vase pur au pied de Jésus, que c'est l'histoire. Et là, les disciples sont offusqués. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers. Le denier, c'était le salaire journalier d'un ouvrier. Donc 300 deniers, ça fait une petite somme. Hein, même si c'est le SMIC annuel, ça fait quand même une petite somme en euros. Bon, hein, 1300 euros par 12, faites le calcul, etc. Et là, c'est une remarque spirituelle extraordinaire quand même. Oui, c'est vrai, on aurait pu le vendre pour le donner aux pauvres quand même. Et là, Jésus a dit ceci, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» Elle a embaumé en avance la sépulture, mon corps, mais elle a fait ce qu'elle a pu. Dans le sens, elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux à l'instant T. Et j'aimerais vous rappeler, mesdames, qu'en tant que femme, qu'en tant qu'épouse, qu'en tant que mère, oui, vous n'êtes pas parfaite, mais chacune d'entre vous, j'en suis convaincu, fait au mieux. Fait ce qu'elle peut au mieux à l'instant T. Pour être la meilleure épouse, la meilleure mère, la meilleure femme, avec des erreurs, avec des regrets, avec des choses sur le passé là aussi, si j'avais su, j'aurais fait autrement, certainement. Non, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas parfaits. Et même cette description de cette femme là n'est pas parfaite non plus. Elle n'est pas parfaite non plus. Et pourtant, bien, ce matin, frères et sœurs, en tout cas, chères sœurs, chères femmes, chères épouses, et puis chères mères, bien sûr que vous n'êtes pas parfaites, mais je suis convaincu que vous faites votre mieux. Et c'est ce qui intéresse le Seigneur. C'est ce qui intéresse, bien sûr, le Seigneur. Hein, ma grâce te suffit, c'est ce verset qu'on peut, là aussi, ma puissance accomplie dans la faiblesse. Soyez bénis, ne tombez pas sous une fausse culpabilité. Et bien sûr qu'on peut regretter, bien sûr qu'on peut, et on a fait, et on fera encore des erreurs. Mais ce matin, bien, Dieu nous rappelle ce qui fait notre valeur, c'est notre identité en Jésus-Christ. Et puis je termine, une valeur en tant que mère. Un proverbe 31 nous parle aussi de la mère dans ce texte, pas simplement de la femme, pas simplement de l'épouse. Verset 15, il dit ceci, « Elle se lève encore, qu'il fait encore nuit. » Elle donne de la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Le verset 27 nous dit ceci, elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Et puis le verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Et tout cela nous parle bien sûr d'une mère, une femme, une épouse, mais aussi une mère. Alors, quand j'ai regardé la définition d'une mère, eh bien, c'est une femme qui met au monde, qui donne la vie. Voilà. Mais je pense qu'on peut aussi y ajouter, bien, toutes celles qui ont adopté, toutes celles aussi qui élèvent, qui ont élevé aussi des enfants dans certaines familles, dans certaines cultures, eh bien, et même si on veut dire ça comme ça, c'est pas l'enfant de notre chair, eh bien, on le considère comme notre enfant. Et on est aussi, vous avez aussi un cœur de maman. C'est exactement la même chose. Et pour moi, il y a une même réalité hein, dans ces particularités. En tout cas, on pourrait dire une maman, bien sûr, bien c'est quelqu'un qui donne la vie, mais aussi qui va lui permettre de se développer harmonieusement, de la meilleure façon pour que l'enfant bien puisse prendre aussi toute sa place dans la société en tant qu'homme, en tant que femme. Donner la vie, la valeur du don de la vie. Vous avez la valeur ce matin, vous qui êtes maman, parce que vous avez donné la vie. Et pour Dieu, c'est un miracle. Il y a un mystère. Et alors, je parle de ce que je connais pas. Mais en tout cas, c'est un mystère, je pense, qui bouleverse la vie d'une femme, hein, lorsque pour la première fois vous avez donné la vie. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui se manifeste, et puis vous le savez. Même si ça nous agace, nous, en tant qu'hommes, lorsqu'on a 70 ans, un petit peu de temps en temps, en tout cas, tout dépend comment on le prend, une maman reste toujours une maman. Hein, et même si elle a encore des enfants qui ont 70 ans, c'est toujours son petit garçon. Voilà. Et des fois, on dit, mais maman, quand même, j'ai 60 ans, etc. Mais on reste maman jusqu'au bout. Parce que cette naissance, cet enfantement, pendant ce qui se passe pendant 9 mois, ça a marqué vos vies. Vous avez, en tout cas, donné la vie. Et c'est ce qui fait de vous, et c'est ce qui fait la valeur d'une maman. Elle devient, par la grâce de Dieu, porteuse de vie. Porteuse de vie. Quelle valeur! Quelle valeur! Là aussi, hein, ce matin, lorsque Dieu comparait Israël à une femme stérile, et qu'ensuite il lui fait la promesse de lui donner un héritage, il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe. Et oui, parce qu'il y a un miracle. Et cette femme, enfin ici c'est Jérusalem, mais si on la compare à une femme stérile qui peut enfanter, c'est une double reconnaissance, hein, qu'elle devient porteuse de vie. La valeur de la vie. Vous savez, il y a quelque chose en ce moment qu'on a découvert dernièrement, et c'est terrible, ça se passe surtout du côté de Marseille, on nous dit que pour 30 000 euros, on peut assassiner quelqu'un. La valeur d'une vie, 30 000 euros, c'est terrible. Et il y a malheureusement il y a des gamins de 18 ans qui pour 30 000 euros eh bien, vont tuer. On arrive à des aberrations, et ça nous prend donner la vie, le miracle de la vie. Quelle valeur, ce matin, vous avez chacune d'entre vous. Paul va faire un parallèle dans Galates 4, 19. Il va dire, mes enfants, il dit, bien, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement. Bon, Paul, il était quand même fort, hein, pour un petit peu assimiler les douleurs de l'accouchement en tant qu'homme, mais il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En tout cas, Paul exprime ici son souci pour des chrétiens qui ne vivent pas encore une pleine maturité spirituelle, qui sont encore comme des enfants, des petits-enfants, etc. Il en souffre, comme une maman, bien au moment, bien sûr, d'accoucher. C'est ce qui fait également notre valeur à tous ce matin. Dieu nous associe à son œuvre de vie. Là, si on fait un parallèle, nous sommes des porteurs de vie. Nous plantons, nous semons, nous arrosons. C'est Dieu qui fait croître. Mais malgré tout, eh bien, ce matin, nous avons une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu parce que nous sommes appelés à communiquer, à partager la vie. Et puis la pensée parallèle, bien, une maman, bien sûr, a une valeur. Par sa valeur éducative, elle va transmettre, elle va communiquer, elle va partager, elle va développer, elle va suivre. Là aussi, ces enfants, pour qu'ils se développent le plus harmonieusement possible, ça a été le but et c'est le but encore de chaque maman, de chaque mère, que ses enfants. Et là, on a dans les Proverbes 31 bien un exemple, hein, où les paroles du roi Lemuel, c'est un message par lequel sa mère va l'instruire. Il y a une transmission. Hein, 2 Timothée 1:5. On se souvient également de ce que Paul va dire à Timothée. Il dit, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère. On passe à la grand-mère, Loïs. Hein, il y a aussi une fête des grand-mères. Béni soit Dieu pour ces mamies de foi, hein, qui prient, et là aussi qui ont une autre relation avec les petits-enfants. Ah, hein, alors, en tant que maman, on a donné un cadre, mais souvent la mamie, bon, voilà, elle apporte un autre cadre pour les petits-enfants, et c'est très bien, et c'est très bien. Mais là aussi, quel cadre, quelle valeur avait cette femme, hein, Loïs, cette mamie? Elle a transmis à sa fille, Loïs, et Paul le reconnaît, et puis je suis persuadé que cette foi, elle habite aussi en toi. Trois générations. Et là aussi, bien, ces mamans qui ont été non seulement porteuses de vie, mais qui ont accompagné, qui ont aidé à développer, qui ont suscité, bien, cette harmonie. Philippiens 1:8, et Paul ici utilise encore un vocabulaire très maternel. C'est pas dans son habitude à Paul, hein. Paul, bon, on le voit plutôt un peu plus rustre, mais là, il va dire ceci, il va ouvrir son cœur. Alors, est-ce que ce sont les années d'emprisonnement? Est-ce que c'est l'âge aussi où il s'attendrit? Il dit, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Il y a des commentateurs qui ont dit ceci, c'est comparable à l'extrême et douce ferveur d'une mère à l'égard de ses tout-petits. Ici, Paul exprime sa tendresse pour l'Église, pour les frères et sœurs, et il fait une comparaison, bien sûr, maternelle. Il dit bien, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Quelle belle expression. Amen. Paul parle ainsi, il veut faire savoir qu'il n'aime pas simplement l'Église dans son ensemble, mais que tous ont une part particulière dans son cœur, un moment là aussi, et chacun en particulier. Et je crois que le Seigneur nous invite, hein, nous rappelle également ce principe de manière générale pour chacun d'entre nous. Oui, nous aimons l'Église universelle, hein, mais nous voulons aussi apprendre à aimer, à nous aimer les uns les autres. C'est pas toujours facile. Hein. On a élevé plusieurs enfants et tous ont leur caractère, tous ont leur personnalité, et c'est bien ainsi. Et c'est pas évident, mais on les aime, bien sûr, d'un même amour, on ne fait aucune différence. Alors en conclusion, le proverbe 31-29 nous dit ceci, « Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu l'aurais à toutes supérieures. » Le chant de louange envers cette femme, envers cette épouse, envers cette mère. Alors qu'il en soit ainsi, c'est notre prière ce matin pour chacune d'entre vous, hein, que vous soyez jeune fille, que vous soyez femme, épouse ou maman, non pas dans un esprit de supériorité, bien entendu, et je sais que c'est pas du tout votre état d'esprit ce matin, mais de reconnaissance, envers Dieu, de la valeur que vous avez aux yeux de notre Seigneur. Ésaïe 49, hein, versets 15 à 16, et on terminera par « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas, là aussi, pitié du fruit de ses entrailles, quand elle l'oublierait ? Moi, je ne t'oublierai jamais. » Et puis la suite nous rappelle quelque chose qui fait notre valeur ce matin. C'est ce que Christ a accompli sur la croix avec le verset suivant. Et on connaît bien sûr cette image que le Seigneur nous donne à travers. Il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Alors il est question bien sûr de Jérusalem ici. Mais de manière prophétique, eh bien, il nous est rappelé que j'ai pas les mains propres, j'ai eu un problème avec mon stylo hein, ce matin, donc j'en ai plein les mains. Pourtant, j'essaie de me laver. Hein. Mais les mains de Jésus, elles sont particulières parce que elles ont été percées pour chacune d'entre vous, pour chacun d'entre vous, qu'on soit jeune fille, qu'on soit femme, qu'on soit épouse, qu'on soit maman. Eh bien, ce matin, voilà le prix, voilà la valeur que vous avez chacune d'entre vous, une valeur qui est inestimable. Puisque il y a ce chant que nous chantons parfois, le trésor du ciel, Jésus, est venu donner sa vie sur une croix pour chacune d'entre vous. Amen. Christ a payé de sa vie. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Que le Seigneur vous bénisse, mesdames, qu'il vous encourage. Vous avez une triple valeur, on va dire ça comme ça, aux yeux de Dieu. Et que ce matin, vous soyez renouvelés dans votre foi, dans votre amour, hein, pour votre famille, pour vos proches, pour l'Église, pour vos voisins, pour vos collègues de travail, que vous soyez renouvelés, mais vous avez de la valeur ce matin aux yeux du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on pourrait prolonger encore ce moment de reconnaissance, d'adoration, de louange au travers de la Sainte Seine? J'ai demandé ce matin à trois dames, une jeune fille aussi, de venir, hein, partager avec nous la Sainte Seine, pour qu'ensemble nous puissions nous réjouir et qu'ainsi bien nous puissions dire, Seigneur, oui, c'est la femme qui craint l'Éternel dont on chantera les louanges. Hein, qu'il en soit ainsi aussi pour chacun d'entre nous. Je demande à nos sœurs, hein, j'ai demandé à Myriam, Angie et puis donc Céline de bien vouloir s'approcher. Hein, notre sœur Céline va présenter ces moments au Seigneur et puis on va prendre encore quelques instants pour élever nos voix, pour être reconnaissants, et que dans sa grâce, eh bien, nos cœurs soient renouvelés. On peut se lever, hein, pour partager ce temps de communion fraternelle, et puis on va ensemble encore bénir le Seigneur quelques instants.